Nous voulons ouvrir la bonne parole de notre Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 14, voici ce que nous lisons. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Voilà. Voilà un texte qui est une puissante invitation à s'approcher du Seigneur pour lui présenter nos besoins, c'est-à-dire à le prier. C'est pourquoi il convient évidemment très bien dans l'occasion qui nous réunit. Mais avant de parler du contenu de notre passage, rappelons qu'il y a là juste un petit adverbe au début qui nous renvoie à ce qui précède. Il est marqué « ainsi ». Ainsi. Ainsi, ça renvoie à ce qu'il y a avant. Or, qu'est-ce qui précède ? Ben, ce qui précède, c'est les versets 12 et 13 qui nous parlent de la parole de Dieu. Et je vais quand même relire cela. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, verset 12. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Voilà, et ceci serait aussi, bien sûr, largement le moyen d'une prédication, puisqu'il ne s'agit pas de notre point principal aujourd'hui. Relevons simplement les caractères de cette parole de Dieu qui nous sont indiqués là. Il nous a dit qu'elle est vivante, il nous a dit qu'elle est efficace, il nous a dit qu'elle est très tranchante, même qu'elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Il est rajouté qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle se confond même avec Christ, puisqu'on voit que directement après, sans transition, il est question de Christ lui-même, verset 13 donc, et elle révèle tout par lui, en nous, sans que rien ne reste caché. Et la question évidemment qui se pose, cette parole est-elle libre de faire toute cette œuvre qui est décrite là, dans notre propre cœur, dans notre vie, à chacune et à chacun d'entre nous et sur chacun de ces points? S'il en est ainsi, nous aurons effectivement une bonne base pour nous approcher de lui et être exaucés suivant ce qui est indiqué à la fin de notre texte d'aujourd'hui, donc les versets 14 à 16 auxquels nous revenons maintenant. Et là donc, vous avez à partir du verset 14 deux grands points qui méritent spécialement que nous les développions. Déjà, il nous est parlé des caractères qui sont recommandés en nous approchant du Seigneur. Si nous voulons nous approcher du Seigneur, de façon bénéfique, évidemment, eh bien, vous avez des choses qui nous sont spécialement recommandées. Et puis, il est aussi question des caractères de Christ et de son œuvre dans ce passage. Il nous est important de les relever pour notre plus grande édification et notre plus grand réconfort. Et ce seront donc, Dieu voulant, nos deux chapitres. En premier, il nous est parlé des caractères qui sont recommandés en nous approchant du Seigneur. Le premier, c'est avoir la foi. Verset 14, hein, avoir la foi. Donc, demeurons fermes dans la foi. Donc, pas seulement une tradition. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Hein. Ce n'est pas ça la question. Mais si vous n'avez que de la tradition, ça ne va pas. Et puis, bien sûr, pas seulement une atmosphère, une ambiance, si on peut parler comme cela. Ou pas seulement un credo, mais une véritable foi en Dieu. Une véritable confiance au Seigneur. Et vous savez que c'est dans l'Épître aux Hébreux toujours, mais au chapitre 11, que la définition de la foi nous est donnée quand il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, une démonstration. Alors, est-ce que nous avons chacun cette ferme assurance? Et pour cela, il est bon d'examiner divers domaines dans lesquels la foi interfère et dans lesquels elle est indispensable. La foi est indispensable pour le pardon de nos péchés. Elle est indispensable aussi pour avoir l'assurance du salut, pour avoir l'assurance de la vie éternelle. La foi est indispensable pour que nos besoins soient pourvus, spécialement dans certaines situations. La foi est indispensable pour la réponse à la prière. La foi est tout à fait nécessaire pour la prospérité et l'avancement de l'œuvre de Dieu dans les cœurs, dans l'Église ou par ailleurs. Hein. La foi est indispensable pour la guérison de bien des maux, et puis aussi pour la délivrance de certaines passions mauvaises. Là, vraiment, la foi est absolument nécessaire aussi. La foi est grandement indispensable pour le changement bénéfique de notre caractère. Hein, ça aussi, c'est un grand point. Et puis la foi est bien sûr nécessaire pour notre croissance spirituelle. Et la foi consiste aussi à croire qu'il y a une bénédiction toute spéciale sur l'obéissance à la parole de Dieu. Hein, voilà. Donc nous avons là quelques domaines. Je n'ai pas encore tous les domaines, mais en tout cas, parmi les principaux, parmi ceux qui nous sont directement nécessaires, donc il est bon que nous puissions examiner si nous avons la foi dans ces divers domaines-là. Et si nous l'avons, si nous avons le désir de la faire grandir, eh bien, le Seigneur est puissant pour pourvoir. Parce que c'est ça aussi notre objectif final, à la fin du passage en tout cas. Après, vous avez vu ce qui est marqué aussi concernant cette foi. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ça veut dire que c'est une foi de professants. Nous sommes des professants. Attention, ne mélangeons pas professants et professeurs. Hein. Un professeur, ben, il va vous enseigner une matière, voir des élèves, puis il va leur faire partager, leur faire connaître son savoir, dans lequel ils sont ignorants peut-être. Mais quand quelqu'un est un professant, eh bien, ça veut dire qu'il déclare et qu'il reconnaît publiquement ce qu'il croit. Voyez-vous, il ne tient pas caché juste au fond de son cœur. Et nous sommes, Dieu voulant, des chrétiens professants. Nous avons à cœur de partager notre foi. Les bonnes choses que nous avons reçues du Seigneur, n'allons pas juste les garder pour nous-mêmes égoïstement. Ce serait coupable. Surtout si ça peut être un moyen de bénédiction pour d'autres autour de nous. Hein ? Donc, par conséquent, professez la foi. La foi que nous professons, est-il dit là, dans ce verset 14. Et puis, il est marqué « demeurons fermes ». Dans la foi que nous professons. Ça veut dire que nous allons chercher à garder précieusement et à affermir ces différents domaines de la foi dont nous avons parlé auparavant. Vous savez, si c'est indiqué qu'il faut demeurer ferme, ben ça veut dire que vous avez des choses qui sont là pour essayer de nous déstabiliser et de nous ébranler. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde qui nous pousse à la foi, hein. C'est un monde qui nous pousse plutôt dans l'autre sens. Donc demeurer ferme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement que, à partir du moment où on sait que la chose est précieuse, importante, bonne, et nous le savons, eh bien, on ne veut pas la lâcher. Hein ? Je lisais le témoignage d'un homme qui s'appelait John Wooden, donc qui a été entraîneur principal d'une équipe de basket américaine, une équipe importante pendant plusieurs années. Et il dit la chose suivante : dans le jeu, j'ai toujours eu pour philosophie que la patience l'emporte. Je parle de la patience de suivre notre plan de jeu. Si nous avons confiance en lui, nous allons épuiser l'équipe adverse et en venir à bout. Si nous délaissons notre style toutefois, et si nous adoptons le leur, nous courons au-devant des difficultés. Et si nous laissons nos émotions décider du jeu plutôt que notre raison, nous ne fonctionnons pas efficacement. Je mets constamment notre équipe en garde en disant « tenez-vous-en à votre jeu ». Finalement, si vous vous en tenez à votre jeu, si vous conservez votre style, la classe l'emportera. Ça ne veut pas dire que nous vaincrons toujours notre adversaire, mais cela nous assure que nous ne nous battrons pas nous-mêmes. Voyez-vous ? Et ça, c'est important. Je pense que l'idée est bonne. Hein, l'idée est bonne, et c'est quelque chose. Hein. Donc, dans le psaume 37, je ne vais pas lire le psaume 37, mais Dieu dit en fait la chose suivante. Il dit, pratiquez le bien, faites-moi confiance, même si vous semblez perdre misérablement, contentez-vous de faire ma volonté, et je m'occuperai de vous, je m'occuperai des résultats, je veux vous assurer qu'au bout du compte, vous serez vainqueur. Hein, c'est ce que le Seigneur veut faire, et si nous... Si nous agissons de cette manière, eh bien déjà, ça nous empêchera de nous battre nous-mêmes et puis ça nous procurera la victoire au bout. Amen. Vous savez, le Seigneur est prêt à accueillir tout homme qui vient à lui. Il est marqué, c'est lui-même qui dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Béni soit son nom. Alléluia. Mais nous pouvons facilement comprendre que celui ou celle qui demeure ferme, qui demeure patient dans la foi, les combats pour Dieu, aura auprès du Seigneur un accès privilégié et de bien plus grandes bénédictions. Amen. Et puis soyons aussi, c'est la quatrième chose, quatrième caractère qui nous sera précieux dans la bonne façon de nous approcher du Seigneur pour être secourus dans tous nos besoins. Eh bien, reconnaissons humblement notre faiblesse. Dans verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous avons tous des manques, nous avons des chutes, nous avons des errements coupables, nous avons des fautes. Voilà, nous devons les reconnaître d'une part, et puis pas juste de les reconnaître pour continuer comme avant, hein, mais non, les reconnaître et que cela nous pousse à venir à lui, que nous pousse à nous approcher de lui, à le rechercher. Il ne faut pas les justifier. Il y a un économiste qui fait un jour le commentaire suivant sur sa profession, il dit voilà, de la plupart des domaines, si les faits ne correspondent pas à la théorie, on cherche une nouvelle théorie. Mais l'économiste ne fait pas cela. Il tente de se justifier dans les faits. C'est-à-dire, il va essayer d'interpréter les faits pour dire que sa théorie était la bonne. Voyez-vous, hein ? Et c'est vrai que si on veut se justifier, on peut toujours trouver des raisons. Hein ? Mais est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est toujours juste ? Hein ? Et c'est vrai que l'humilité, c'est ça. L'humilité, en fait, ce n'est pas de se rabaisser en dessous de ce qu'on est. L'humilité, c'est simplement de reconnaître notre état, de reconnaître que nos pensées, nos raisonnements ont besoin d'être changés. Ils ont besoin d'être amenés captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Reconnaître que puisque nous faisons des fautes et des péchés, ça veut dire que nous avons besoin d'être changés, n'est-il pas vrai ? Si on était sans péché et sans faute, on pourrait dire qu'on n'a pas besoin de changer. Mais puisqu'on fait des fautes, donc ça veut dire qu'il faut qu'on change, il faut qu'on soit changé, c'est de le reconnaître. Et puis reconnaître que ce n'est pas prioritairement la faute des autres, hein. C'est déjà en premier notre propre responsabilité. Vous savez, on peut se trouver dans des situations d'injustice. Dans notre vie, ça va nous arriver à un moment ou à un autre. Hein. On va être victime de ceci, de cela, on va... Oui, c'est vrai tout ça. Il y a des gens qui subissent des choses terribles. Mais au bout du compte, ce n'est pas ça qui va faire notre vie. Au bout du compte, ce n'est pas ça qui va faire notre personnalité. Ce qui va faire notre force ou notre faiblesse, c'est la manière dont nous allons prendre les choses. C'est ça le grand point. Et si nous pouvons prendre les choses en nous disant, eh bien Seigneur, tu vois, j'ai ma part de responsabilité, mettons dans telle situation, et c'est là-dessus qu'il faut que j'ai voulu que je change, même si d'autres ont eu des torts. Ça, c'est leur affaire et c'est ton affaire avec eux. Hein ? Ils rendront compte, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Hein, donc, mais moi aussi. Mais moi aussi. Donc ça veut dire, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Dieu est celui qui sauve le peuple qui s'humilie. Et il saura le faire. Béni soit son nom. Amen. Et c'est en nous approchant de cette manière-là que nous serons bénis. Et puis souvenons-nous que nous approchons aussi du trône. Lorsque vous lisez au verset 16, vous l'avez vu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ceci nous fait reconnaître la suprématie du Seigneur Jésus-Christ, son autorité suprême, sa domination au-dessus de tout. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il a le droit d'être pleinement obéi en tout. Même peut-être dans les choses que je ne comprends pas maintenant, il n'est même pas forcément obligé de me donner des explications maintenant, hein. Je peux quand même lui faire confiance, n'est-il pas vrai, hein. Et puis, ce devoir d'une obéissance inconditionnelle de ma part et le devoir de rechercher sa volonté pour la faire. Amen. Béni soit son nom. Il est marqué, nous approchons du trône de la grâce. Alléluia. La grâce, afin de trouver miséricorde et grâce, est-il dit là. Voilà encore une bonne approche, une bonne attitude. Hein, donc, notre premier besoin, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu ne nous doit rien, hein, à aucun d'entre nous. Hein, nos manques sont continuels. L'Écriture nous dit que s'il trouve de la folie chez ses anges, à combien plus forte raison chez l'homme pareil à l'herbe. Pensez donc, si un ange apparaissait là au milieu de nous, dans sa gloire, on tomberait tous par terre. On n'aurait plus de force, on serait anéantis. Dieu trouve de la folie chez ses anges. Alors chez nous, pensez donc. Hein, toute notre justice est comme un vêtement sale par nature, comme un vêtement souillé est-il marqué. Même nos plus belles œuvres ont une part de motivation qui n'est pas toujours très reluisante. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte. Hein. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la miséricorde et de la grâce du Seigneur. Et béni soit son nom, il nous l'accorde. Il y en a en abondance pour ceux qui savent venir à lui. Et il y en a en pleine suffisance. Sa miséricorde dure à toujours. Béni soit son nom. Alléluia. Et que cela nous amène aussi, bien sûr, à faire miséricorde et grâce envers ceux qui se sont mal comportés envers nous. Hein, avoir aussi de la patience avec eux, hein, dans toute la mesure où nous désirons que Dieu nous fasse aussi patience. Hein. Voilà, que le Seigneur nous soutienne en cela. Et puis il est marqué enfin en septième, nous pouvons lui présenter nos besoins. Là aussi, ça fait partie donc de cette bonne disposition. Ça veut dire bien sûr qu'il faut reconnaître qu'on a des besoins, déjà en premier. Hein, et puis reconnaître quels sont ces besoins. Avoir une conscience de ces besoins. Et puis un profond désir que cela puisse aussi évoluer dans la bonne direction. Là encore, je prends une petite anecdote. Un lanceur de la Ligue majeure de baseball aux États-Unis éprouvait des difficultés. Il avait commencé la saison avec un mauvais dossier. Et à la mi-saison, les choses avaient commencé aussi à s'améliorer. Et il avait gagné 4 parties en ligne et on ne parvenait presque plus à attraper les balles qu'il lançait. Et lorsqu'on lui a demandé ce qui faisait la différence, il a dit « j'ai révisé la mécanique ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça veut dire qu'il avait corrigé une mauvaise habitude qu'il avait dans son lancer. Après avoir découvert l'erreur, il s'était efforcé de s'exercer pour la corriger. Et au début, ce n'était pas facile. Au début, rien ne semblait fonctionner, mais plus il y travaillait, et plus les choses s'amélioraient, et quand il a recommencé à lancer, sa série de victoires a commencé aussi. Et je crois qu'il faut se poser la question, c'est quand la dernière fois que j'ai essayé de changer une mauvaise habitude? Réfléchissons un petit peu à la question. Alors, ce n'est pas forcément facile, parce qu'on est à l'aise avec notre vieille habitude, évidemment, et la nouvelle habitude peut sembler étrange, peut sembler bizarre. Et c'est pour ça que bien souvent, on hésite à faire les changements qui devraient y avoir. Par exemple, des fois, on a tendance à parler, dire des paroles qu'il ne faut pas dire, qu'on regrette après. Ou bien peut-être dire des paroles. C'est tellement facile de dire des paroles, de relever le négatif de quelque chose. Hein. Et puis, ce n'est pas si facile que ça de relever le bon côté des choses. C'est juste un exemple, mais c'est un exemple, je pense, qui peut nous parler à chacun. En tout cas, combien il est important là aussi de venir au Seigneur. Seigneur, tu vois ce besoin. Je viens à toi avec ce besoin. Et puis ce genre de besoin-là, ce genre de besoin dont nous sommes peut-être parfois les moins conscients, mais qui sont souvent les plus grands, parce que quand ils sont améliorés, ces besoins-là, ça a aussi toutes sortes de répercussions positives, par ailleurs, dans d'autres situations et dans notre foi et partout. Mais en tout cas, soyons persuadés que le Seigneur veut pourvoir à tous nos besoins, puisqu'il est marqué « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Voilà concernant notre disposition lorsque nous venons au Seigneur pour le prier. Et puis nous avons, avant de dire notre deuxième point, les caractères du Seigneur et de son œuvre qui sont relevés là et qui font que nous pouvons justement nous approcher de lui avec espérance et avec assurance. Déjà, il est marqué qu'il est le souverain sacrificateur, verset 14. Vous savez, le souverain sacrificateur, c'était en quelque sorte l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, en tout cas dans le culte qui était rendu à Dieu, dans l'ancien Israël. Et c'était le seul qui pouvait pénétrer une seule fois dans l'année dans le lieu très saint. Et lorsqu'il avait accompli ce qu'il devait y accomplir, s'il revenait, c'était pour apporter ensuite la bonne nouvelle, rapporter la bonne nouvelle que Dieu avait pardonné les péchés et que Dieu faisait grâce encore. Et les gens, lorsqu'ils le voyaient revenir, les gens louaient Dieu et les gens bénissaient Dieu. Voyez-vous, c'était cela. Et ainsi pouvons-nous nous confier en celui qui demeure le seul et parfait intermédiaire, le seul et parfait médiateur entre la majesté divine dans les lieux très hauts et notre petitesse et notre indignité humaine. Amen. Et puis, il est, non seulement cela, mais il est marqué qu'il est le grand souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il est supérieur à tout autre. C'est le premier souverain sacrificateur établi, vous vous souvenez de qui c'était? Oui, Aaron, tout à fait. Et vous savez qu'Aaron a fait des fautes. Il a fait des fautes, Aaron. Et puis, je reviens, il y en a plusieurs qui ont suivi, mais souvenez-vous d'Élie, le souverain sacrificateur, du temps où Samuel était jeune. C'est lui qui a été, en grande partie, le formateur de Samuel. Mais nous savons aussi qu'il avait bien des manques, là aussi, bien des défauts. Et puis, lorsque vous arrivez dans le livre de Zacharie, vous voyez qu'il est question d'un certain Josué, souverain sacrificateur. Et dans la vision, le prophète le voit avec un turban qui est sale, des habits qui sont sales. Et ça représente quoi? Ça représente sa justice souillée, sa justice imparfaite. Et puis je ne vous parle même pas des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe qui ont eu de lourdes responsabilités dans la crucifixion du Seigneur Jésus. En tout cas, ces hommes, nous le voyons, ont par eux-mêmes été bien peu dignes de confiance. Et combien Jésus est le grand sacrificateur, qu'il est leur est supérieur en tout point. Dans sa vie, dans sa conduite, dans l'exercice de son ministère, eh bien, nous voyons dans sa perfection et aussi dans la puissance de sa prière en notre faveur, de son intercession en notre faveur. Et à cause de cela, nous pouvons lui faire une entière confiance. Nous pouvons nous approcher de lui de tout cœur en nous appuyant fermement sur son œuvre et son ministère de grand souverain sacrificateur. Amen. Et puis, nous pouvons aussi nous approcher du Seigneur parce qu'il est marqué qu'il a traversé les cieux. Ça aussi, c'est important. Il a traversé les cieux pour achever et d'accomplir parfaitement son œuvre de salut en notre faveur. Et ce qui est merveilleux, et je pense peut nous encourager d'autant plus, c'est qu'il est un habitué des cieux et qu'il prépare une place merveilleuse dans les cieux à ceux qui se confient en lui. Alléluia. Ça, c'est notre joie que personne ne peut nous ôter. Béni soit Dieu. Le planétarium de l'Université du Colorado avait besoin d'argent, si bien que son directeur a imaginé une façon comique de recueillir des fonds. Il a fait imprimer les dépliants en offrant, qui offraient des lots de 400 hectares sur la planète Mars pour seulement $20. Et dans le dépliant, il était écrit « Cette bonne affaire inclut un ciel rose, des rocailles illimitées et non pas une mais deux lunes. » Tellement paisible, tellement calme et romantique. Même les indigènes sont amicaux. Avec une force de gravité 6 fois moins élevée que sur Terre, votre jeu de golf s'améliorera considérablement. Vos drives seront 6 fois plus longs. Mars, c'est l'aventure pour toute la famille. Voilà. La blague a eu étonnamment beaucoup de succès. Des gens dans tout le pays ont envoyé $20 pour obtenir un lot avec dedans une assurance de voyage spatial et un échantillon simulé de terre rouge en provenance de Mars. Voilà. Alors, si cette histoire nous fait sourire, alors pensons à autre chose. Pensons à la propriété suprême dont nous pourrons jouir un jour, c'est le ciel. C'est le ciel et comme expression de son amour. Nous voyons que Dieu le promet à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Et le ciel, c'est un endroit qui existe réellement. Ça, ça existe. Votre chaise sur laquelle vous êtes existe. Et tout ça, ça retournera au néant. Mais le ciel, il existe encore beaucoup plus que ça et que votre chaise et que le poteau près duquel vous êtes. Le ciel existe beaucoup plus que ça. Il est beaucoup plus réel, beaucoup plus matériel, beaucoup plus solide. Ça, c'est la réalité. Béni soit Dieu. Et le Seigneur vivra là avec son peuple. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleurs et nous pouvons avoir confiance en lui parce que le Seigneur est celui qui a remporté la victoire sur la mort. Amen. Qu'est-il dit encore ? Verset 15 nous rappelle qu'il peut compatir à nos faiblesses. Et ça aussi, c'est un encouragement à nous approcher de lui. Il peut compatir à notre faiblesse. Donc ça nous rapproche de cette miséricorde, de cette grâce dont nous avons déjà parlé. Le fait qu'il ait de la compassion, c'est-à-dire qu'il souffre avec nous. C'est du latin cum, et puis qui veut dire avec, et puis la passion qui parle de souffrance. Donc souffrir avec, ça veut dire. L'étymologie du mot elle nous amène là. Donc, c'est-à-dire qu'il nous comprend avec bonté et nous supporte avec patience, avec espérance. Et là encore, quel merveilleux encouragement à nous approcher de lui et à le prier avec confiance. Il peut compatir à nos faiblesses à cause de sa miséricorde. Et c'est important de rappeler cela. Lorsque le grand prédicateur puritain Thomas Hooker, qui a vécu à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, était sur son lit de mort, il y a un ami qui a voulu le consoler en lui disant « Frère Hooker, vous allez recevoir votre récompense. » « Non, non, dit-il, je vais recevoir la miséricorde. » Alléluia. À l'opposé de cela, vous avez Tozer qui rappelle la prière d'un homme qui croyait mériter le ciel pour avoir essayé de garder les 10 commandements. Et sa prière était à peu près la suivante. « Seigneur, je reconnais que je n'ai pas gardé le 1er, le 3e, le 7e et le 9e commandement, mais n'oublie pas, Père, que j'ai gardé tous les autres. » Quelle folie ! Quelle folie ! Cet homme ne voyait pas que s'il avait péché contre un seul commandement. Eh bien, écoutez, l'Écriture nous dit qu'il était coupable de tous. C'est dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2 et au verset 10. Donc, ses œuvres, s'il s'appuyait sur elles, lui méritait la condamnation et pas le salut. Hein. Mais là, lorsque l'apôtre Paul réfléchissait à ses 30 et quelques années de service consacrées à Dieu, sacrifiées pour le Seigneur, eh bien, il se voyait comme quoi ? Comme le premier des pécheurs et totalement dépendant de la miséricorde de Dieu. Et bien qu'il ait anticipé quand même aussi les récompenses qu'il recevrait, mais il se glorifiait seulement de la croix de Jésus-Christ, alléluia. Et Dieu pouvait vraiment aussi soutenir cette foi et aussi bénir tous ceux qui le prient ainsi avec confiance. Amen. Et puis, une cinquième chose qui est aussi un encouragement pour nous à nous approcher de lui, c'est qu'il est marqué là au verset 15 qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans succomber au péché. Vous ne pouvez pas être pleinement compris par la personne qui vous connaît même le mieux, parce qu'elle n'a pas été jusqu'au fond tentée comme vous. Et de même, vous ne pouvez pas faire confiance à la meilleure personne que vous connaissiez jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il lui est arrivé à elle aussi de succomber au péché. Mais Jésus a été tenté en toutes choses comme nous exactement. Alléluia. Et il a résisté au péché complètement, sans la moindre faille, il a vaincu le péché. Il peut donc nous comprendre parfaitement, mieux que quiconque, et nous pouvons aussi lui faire entièrement confiance parce qu'il a été entièrement éprouvé, qu'il n'a failli en rien. C'est donc lui le seul qui puisse pleinement vous comprendre et pleinement vous soutenir. Alléluia. Et c'est ce que ce passage nous rappelle. Et puis ce passage nous dit encore une chose, verset 16, c'est qu'il est sur le trône. Il est sur le trône, nous l'avons dit déjà, mais reprenons-le maintenant. Ça veut dire qu'il a l'autorité suprême. Ça veut dire qu'il domine sur toutes choses. Ça veut dire qu'il est le plus puissant, le plus sage, le plus rempli de gloire. Ça veut dire qu'il a toutes les solutions. Vous avez l'impression que votre problème n'a pas de solution ? Dieu a tout un choix de solutions devant lui. Il a toute une palette de solutions. On n'imagine même pas les solutions que Dieu peut avoir. C'est important que nous puissions nous confier en lui, lui adresser nos besoins et nous attendre à lui. Alléluia. Et puis il est marqué quand même. Et il est marqué qu'il veut nous secourir dans nos besoins. Ce n'est pas seulement qu'il a la solution, mais il veut nous l'accorder. Alléluia. Ça aussi, c'est son désir, c'est sa promesse. Alors, remarquez bien, c'est marqué qu'il veut nous secourir dans le superflu. C'est marqué dans nos besoins. Et je pense que c'est bien. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Le Seigneur, il sait que le superflu, trop souvent, c'est une occasion de chute pour nous, une occasion de distraction dans toutes sortes de choses qui sont vaines. Par contre, nos besoins, eh bien, il est puissant pour pourvoir. Et pour pourvoir au moment du besoin, pour combler le besoin, donc, et sans jamais y manquer. Alléluia. Je lisais l'autre jour ce petit témoignage. Je devais téléphoner à ma compagnie d'assurance. C'était une bonne chose que j'ai appelé tôt. D'abord, la ligne était occupée pendant toute une journée. Il n'y en a qu'un connu ça dans le confinement. Hein. Ensuite, il y avait un message enregistré suivi de musique, parfois interrompu par une voix qui disait « Nos lignes sont encore occupées, veuillez garder la ligne ou raccrocher et réessayer. » Vous avez déjà connu ce genre de situation ? Finalement, mon appel est passé. Hurrah ! Mais cela a engendré une suite d'instructions compliquées. Pour des renseignements sur votre police d'assurance, appuyez sur le 1. Pour une nouvelle couverture, appuyez sur le 2. Pour faire une réclamation, appuyez sur le 3. Pour parler à un agent de l'assurance, appuyez sur le 4. J'ai choisi la dernière option. Un enregistrant m'a dit qu'il avait quitté le bureau, m'a demandé d'appuyer sur le dièse. La même voix m'a alors redonné les mêmes options. J'ai raccroché. Au même moment, j'ai ressenti un besoin urgent de parler au Seigneur. La ligne n'était pas occupée. On ne m'a pas demandé d'attendre. Et je savais que Dieu écoutait et qu'il se souvenait profondément, il se souciait de moi, il s'occupait, et par moi, il se souciait profondément de moi. Ça ne veut pas dire qu'on aura toujours les exaucements immédiats à nos prières, mais par les promesses merveilleuses qui sont associées, eh bien nous savons que Dieu est celui qui écoute nos prières. Il est celui qui les entend et les écoute. Hein. Par exemple, dans le psaume 34, David, lorsqu'il repense à ses prières et aux exaucements du Seigneur, il dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Alléluia. C'est marqué dans le verset 15 du psaume 34. « Dieu soit loué, il n'y a pas de réponse évasive à la prière. » Béni soit le Seigneur qui nous invite à nous approcher de lui avec cette ferme assurance dès maintenant et de tout notre cœur. Amen. Amen.